Vous écoutez
RMC. RMC After Live, intégrale Coupe du Monde.
Karine Galli.
On est ensemble sur RMC jusqu'à 5h du matin. On vous suit jusqu'au bout de la nuit. Dans quelques minutes, le coup d'envoi du match entre les États-Unis et le Paraguay. Walid Acherchour est là, Maxime Chano. Et notre invité, c'est Mike, un restaurateur où tout le gratin français-américain se déplace.
Pas que le gratin dauphinois.
Baratin. Pas que le gratin dauphinois. Je sais que tu fais un très bon gratin dauphinois, notamment dans ton restaurant sur West Village. Tu vas nous raconter un petit peu les coulisses de cette aventure au Baratin avec de nombreux sportif présent, mais on va tout de suite retrouver Valentin Jamin. Valentin, on l'a dit, le coup d'envoi dans quelques minutes et surtout l'entrée des joueurs sur la pelouse avec un moment fort. On le sait, à chaque fois que l'hymne américain retentit dans une compétition américaine, c'est vraiment prenant. Et ce soir, on va le vivre ensemble en direct, l'hymne paraguayen en premier et puis l'hymne des Américains. Katy Perry vient de terminer sa chanson.
Oui, tout à fait, avec donc cette robe qui ne t'a pas plu, qui était grise, un petit peu évasée au niveau des hanches et qui tombait tout droit, pour décrire un petit peu argentée. Elle est partie et là les joueurs sont dans le couloir, les regards concentrés bien évidemment, les regards fermés pour Team USA qui accueille la compétition pour la première fois depuis 1994. Il y a de la pression, il y a de l'attente, le stade est plein, nous dit-on, le SoFi Stadium de Los Angeles, pour accueillir l'entrée en lice d'un des trois pays hôtes de cette Coupe du Monde. Les États-Unis qui vont disputer leur 12e Coupe du Monde, les Paraguayens eux vont disputer leur 9e compétition. On l'a dit, ça fait 16 ans que ce petit pays d'Amérique du Sud attend de retrouver la plus belle, le plus beau des tournois. Tout le monde est dans le couloir pour l'instant, concentration. Orlando Gil, le gardien paraguayen, qui mâche son chewing-gum, qui sautille sur place. On attend évidemment l'entrée et les drapeaux qui sont en train d'être étendus sur cette pelouse du SoFi Stadium. On va avoir la cérémonie qu'on connaît maintenant avec les joueurs qui vont se mettre en cercle autour du rond central à côté de leur drapeau.
C'est vrai que le stade est absolument magnifique. 70 000 personnes. Valentin nous dit que finalement il a guichet fermé parce que c'est vrai qu'il reste encore beaucoup de place. Peut-être qu'ils ont fait quelques réductions, mais c'est absolument sublime ce stade. Le stade qui sera aussi évidemment l'un des acteurs pour les JO de 2028. T'as joué là, hein, Maxime ?
Non, j'ai pas joué dans ce stade.
T'as jamais joué dans ce stade ?
Non, bah non, c'est les footballeurs américains qui jouent. Moi, on avait notre propre stade à Los Angeles, mais pour le coup, pour avoir été voir. Pour aller voir un match sur place, c'est juste exceptionnel.
Tu peux pas faire semblant comme si tu avais joué ?
Bon, bah oui, j'ai joué, Karine, c'était vraiment sympa.
Maxime, est-ce que tu es un bon nageur ? Parce qu'en 2028, ce sera la piscine olympique des Jeux de Los Angeles.
Alors, c'est Léon Marchand, là, c'est Léon Marchand.
Exactement.
Alors, sache que je suis un très bon nageur et je suis pas mal au ping-pong, ouais. Voilà, oui, il y a un tournoi de ping-pong bientôt.
Le ping-pong au JO, bien sûr, les frères Lebrun.
Il va falloir que je choisisse la discipline alors. Non, mais je vais peut-être rester dans le foot.
Mais peut-être que le ping-pong avec le Luxembourg, ça peut passer. Il y a pas.
Je serai sûrement sélectionné. Ouais.
Bah oui, ouais, à mon avis.
Top 3 pongistes luxembourgeois, c'est sûr ça.
Peut-être chez les nageurs, ça passe aussi. De toute façon, au Luxembourg, tu peux facilement être qualifié pour une épreuve, non ?
Ça y est, tout de suite le Luxembourg.
Excuse-moi, c'est ton pays.
Bah oui, je sais, mais bon, écoute, on a beaucoup de qualités. Bah oui, beaucoup de qualités.
Mais tu peux m'en citer ?
Non.
T'en as un à côté de toi, t'as un ex sportif.
Oui, non, mais bien sûr. Non, mais je veux dire, si par exemple le champion du monde du 100 mètres était luxembourgeois, on le saurait.
Les frères Schleck, par exemple.
Ouais, bah oui.
Voilà,
moi, mais grand fan des frères
voilà,
Schleck. Andy, plus Andy que Franck.
Voilà, ouais,
Andy, c'était mon vélo.
Et le numéro 2 de l'équipe nationale, Chano, tu le connais aussi ?
Qui ?
Chano.
Maxime Chano,
voilà.
Ah oui,
dans ses grandes heures.
Très très bien.
Mais alors, moins au JO.
On s'est pas qualifié, malheureusement.
Il y a eu un petit couac, a priori.
On l'a plus vu au bar de Mike qu'au JO, je crois.
Alors là, au baratin, médaille d'or.
Mike,
tu peux nous le confirmer.
Ah oui, il est sur toutes les boîtes. Il est sur toutes les boîtes.
Voilà.
Toutes les boîtes à podium, il est dessus.
Il a reçu. J'ai ma famille qui écoute.
On les embrasse d'ailleurs. Toutes les médailles possibles au baratin pour Maxime Chano. Valentin, on est avec toi, on le rappelle. Donc le coup d'envoi dans quelques secondes et les hymnes nationaux qu'on va vivre dans ce stade sublime de Los Angeles.
Il est magnifique, avec trois étages, trois niveaux, des LED qui éclairent à chaque fois à chacun de ces niveaux. Également, il y a un écran en haut de ce stade qui montre un petit peu à toutes les tribunes ce qu'il se passe. Et donc les joueurs qui ont fait le protocole en avançant sur cette pelouse, ils sont rentrés par le coin de cette pelouse. Ils se sont mis autour du rond central, les Paraguayens veste bleue qui entendent leur hymne. pour cette hymne du Paraguay, avec beaucoup de supporters bien évidemment qui sont venus d'Amérique du Sud, ce maillot mythique rayé rouge et blanc. Et maintenant, grand moment, la bannière étoilée, l'hymne des États-Unis.
Donc l'hymne américain avec des guests absolument incroyables. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on est aux États-Unis, tout est XXL. On a Tom Cruise, on a David Beckham, on a Victoria Beckham, on a Matthew McConaughey. Bon, qu'on sait, en France, nous, on a des acteurs un petit peu plus low cost.
Mais respectons nos acteurs français, Karine.
Ben oui, mais bon, quand tu vois les acteurs américains,
c'est
ça rejette un petit peu plus.
C'est pas la même catégorie. C'est pas la même catégorie. Si, si.
Voilà.
Et par contre, j'ai une petite analyse capillaire sur le changement capillaire de Pochettino.
Ça te plaît?
Il me fait penser à. Comment il s'appelle l'acteur qui faisait Alexandre Legrand? Comment il s'appelait l'acteur, tu l'as pas? Russell, non, c'était.
Russell Crowe?
Ouais, ouais, il a un côté un peu Russell Crowe.
Il faisait Gladiator, surtout.
Oui, il faisait Gladiator.
Ah, oui, oui, j'aurais commencé par Gladiator.
Oui, voilà.
Oui, mais il a pas un côté un peu. La coupe un peu.
Donc on est d'accord que c'est pas un compliment, là, que tu lui fais.
Non, il y a un style, en tout cas, il y a une direction artistique, en tout cas, il y a une nouvelle DA.
Bah écoute, on va voir si ça le porte et si ça lui permet d'être un Gladiator incroyable. Mike, on t'a vu la main sur le cœur. Alors je comprends plus, t'es américain ou t'es français?
Je suis né, grandi, c'est américain.
Ok, donc. Quand il y aura un USA France, tu seras pour qui?
Si ça arrive un jour, je serai à la radio américaine quand parler de qu'est-ce que c'est d'être français.
Et si tu vas te positionner, tu prends la France ou les États-Unis?
USA, baby.
Ah,
okay. Bon, ben c'est très franc.
Tu peux sortir,
c'est que le tennis, je suis français. Tennis, no matter what, je suis français.
Bah, pourtant, les Américains étaient bien meilleurs que nous, les Français. Les Pete Sampras, les Agassi, les McEnroe.
J'aime bien souffrir.
Tu vois, Serena Williams qui revient.
Elle revient.
Non. Bon, Coco Gauff.
C'est la famille. Coco, c'est une de mes plus grosses clientes. Alors.
Ah ouais, d'accord.
J'ai un petit quelque chose pour Coco.
Ah oui.
Ah, ben on va en parler dans quelques minutes. Peut-être que ça nous intéresse. Coco Gauff, on adore.
Et quand tu es pas juste pour elle, qui est un Français, qui est un frère.
Et je me suis trompé d'acteur. Hein. C'est Colin Farrell. Je voulais parler de Colin Farrell.
Oui, ça n'a rien à voir.
Il a un côté un peu Colin Farrell.
Colin Farrell, il avait fait un film dans une télécabine. Dans une. Non, comment on appelle ça là?
Cabine téléphonique?
Oui, c'est ça.
Télécabine, c'est Jean-Claude Duss. C'est le bronzé
faux du ski. En tout cas, les qui suis-je pour trouver les objets sont très intéressants de la part de Karine.
Tout de suite.
Ah oui, bien sûr.
Cabine téléphonique.
Ah, parce qu'en fait, avec le mime, notamment avec les mains, je pense que.
Mais tu l'as ce film?
Bien sûr, je l'ai.
Voilà. C'était quand même.
Je l'ai pas du tout. Je l'ai pas du tout.
Alors, je vous.
Ah, c'est Fun Game.
Voilà.
Ah, bien sûr. Ok, d'accord.
Exactement. Et donc, ça se passe dans une cabine téléphonique.
Très bien.
Et c'est avec.
C'est Pochettino qui a fait le film.
Eh ben, il semblerait.
Mais Colin Farrell, Pochettino a un côté un peu Colin Farrell, Alexandre Legrand.
C'est pas mal. Écoute, on est toujours avec Valentin, évidemment, qui est critique cinéma également et commentateur.
Ah, là, j'ai pris un shot de culture, c'est impressionnant. Là. J'ai l'impression d'être bien plus intelligent que tout à l'heure.
On dormira moins bête. Hein.
Qui va nous commenter ce USA Paraguay. On rappelle, hein, c'est le troisième pays organisateur qui entre en lice ce soir. Le Mexique a gagné 2-0 face aux Sud-Africains. Le Canada a été bloqué par les Bosniens 1-0. On débriefera d'ailleurs ce match nul entre les deux formations. Le Canada qui a dominé mais qui n'a pas pu pu faire mieux que match nul. Et donc les USA qui sont maintenant en lice face au Paraguay. Valentin, le coup d'envoi est imminent. Et au niveau des températures, a priori, Maxime, à Los Angeles, c'est comment? C'est similaire à New York ou c'est plus respirable?
En règle générale, il fait quand même beaucoup plus chaud à New York, et encore plus quand t'es à Manhattan, t'imagines bien, avec les tours. Mais c'est vrai qu'on a aussi très très chaud. Après, c'est un peu plus modéré hein, sur toute l'année à Los Angeles, mais bon, j'ai pas de doute à mon avis qu'il risque
24 degrés actuellement, donc c'est là parfait. C'est totalement jouable.
Voilà. Merci Miss Météo.
Voilà, tu vois, en tout cas,
on a Catherine Laborde, attention, parce que là,
il y a du loup.
Elle peut être challengée.
Mais c'est très important, parce que là, à New York, on ne respire pas. Donc, Valentin, les conditions sont optimales, 24 degrés. Il y a tout qui est réuni pour du beau football.
Et il y a du soleil. Il y a du soleil et il y a 22 joueurs qui sont prêts à donner le coup d'envoi. L'arbitre, c'est le néerlandais Danny Makiele, une pointure dans son domaine. Et ce sont les Paraguayens qui vont entamer cette partie avec leur maillot, donc je disais, traditionnel, rouge et blanc. J'ai presque un doute parce qu'on a les mêmes couleurs des deux côtés. Le coup d'envoi est donné. Sur le côté gauche, c'est ça, hein, le long dégagement, parce qu'on nous a montré les vestes qui étaient couleur opposée, c'est bien les États-Unis en rouge et blanc, et ce maillot extérieur pour le Paraguay, joueur Julio Enciso, maillot bleu marine, et sa teinture blonde, Julio Enciso, le Strasbourgeois qui était incertain, lui qui avait pris un coup à la cheville lors du dernier match face au Nicaragua, victoire 4-0 du Paraguay. On avait même dit du côté de son sélectionneur qu'on l'attendait plutôt pour le deuxième match. Il est bien là, le joyau du Paraguay. Les Américains qui ont une première possession dans le camp paraguayen, justement, il y aura une faute au milieu de terrain qui va être signalé par monsieur Makiele sur un duel faute des États-Unis sur un milieu de terrain paraguayen. 36e seconde de jeu, on voit Mauricio Pochettino qui effectivement a les cheveux un peu plus longs, un peu plus ramenés vers l'arrière, la petite chemise assortie au pantalon
apparemment.
Ouais, la classe. Ouais. Pour mes, je vous laisse la culture. Moi, je me concentre sur le sport et c'est déjà bien, bien dur. Mais possible. En tout cas, c'est pas le même Pochettino qu'à Paris, qu'à Tottenham ou qu'à Chelsea. C'est vrai qu'il a un CV ronflant, le sélectionneur, arrivé en 2024. Le coup franc dans le rond central pour le Paraguay. Il a été joué par Gomez sur la gauche avec son compère de la défense centrale. Le long ballon en profondeur vers Sanabria qui est à gauche de la surface. Le centre en retrait coupé au premier poteau. La frappe et la claquette tout de suite de Matt Fries. On va arriver au second poteau maintenant. Le nouveau centre de la droite, le dégagement catastrophe là de la barre de Robinson, me semble-t-il, en touche, mais les Paraguayens qui attaquent fort avec ce premier débordement de la gauche. C'est Marcos Alonso, je crois, qui était venu amener un petit peu de soutien après ce débordement de Sanabria, si en tout cas 8, passe verticale.
Je pense que si le 8 tombe, il y a pénalty.
C'est Diego Gomez.
Je pense que parce que
le 8 tombe, ouais.
Je crois qu'il est en retard, le défenseur américain, et Robinson. Il joue mal le coup, je trouve. Ouais.
Diego Gomez qui avait surgi sur cette passe de Sanabria. La longue touche là de la droite pour le Paraguay. La tête défensive, ça reste un petit peu au niveau de la surface américaine. Et finalement, le ballon qui revient dans les pieds paraguayens. On va repasser en retrait avec la charnière, avec Gomez qui va la mettre loin à gauche vers Alonso. Ce sera bien trop profond et ce sera directement dans les bras du gardien de New York City, Matt Fries. Troisième minute de jeu, 0-0. Mais le Paraguay s'est montré dangereux. Et Matt Fries, dans cet angle fermé, sur cette lourde frappe, ou plutôt centre, de Diego Gomez, qui a déjà dû intervenir en décalant ce ballon. Il va relancer avec le capitaine Tim Ream. On a bien cette défense à 3, hein, 3 centraux. Il s'appuie sur Richards qui va aller voir maintenant sur sa droite avec Freeman. Le long ballon dans le couloir avec Dest, me semble-t-il, qui a fait l'appel, qui va la mettre de la tête vers Balogun dans la surface de réparation. La frappe de Balogun et l'arrêt tranquillement d'Orlando Gill qui vient capter ce ballon, et la réponse immédiate de la part des Américains.
Ça commence bien, cette histoire.
0-0.
En tout cas, les Américains, ouais, qui commencent plutôt bien. Il y a eu un super appel hein, de la part de McKennie. Hein. Il est intéressant dans son genre de profil, hein, où est-ce qu'il n'hésite pas justement à prendre la profondeur, un petit peu à changer de poste, entre guillemets.
Il a encore le ballon. McKennie qui va mettre sur sa droite à Follarine Balogun. Derrière lui, il y a Dest. Il y avait surtout hors-jeu, j'ai l'impression, de la part de soit McKennie, soit Balogun au départ. On va rendre le ballon. Je te laisse finir, Maxime. Mais c'est effectivement la projection de McKennie, ouais, qui a amené de la profondeur aux Américains.
Vraiment, dans le dépassement de fonction, McKennie, il est vraiment intéressant avec un Balogun qui tourne un petit peu autour de lui. Je pense que ça peut être vraiment intéressant pour les Américains s'ils continuent justement à appuyer sur ça. On connaît aussi la défense paraguayenne, hein, qui est aussi un petit peu lente. Et justement, au côté Paraguay, s'il y a un joueur qui a envie de briller aujourd'hui, c'est Miguel Almirón, qu'on connaît du côté Newcastle, hein, bien évident, qui est rentré depuis à Atlanta en MLS et qui est un super joueur, en tout cas, qui a une très très belle côte côté États-Unis, en tout cas aux États-Unis dans la MLS. Donc voilà, je sais que ça va lui tenir à cœur justement de faire une grande compétition entre guillemets chez lui.
et il a marqué 10 buts en 76 sélections. Miguel Almirón, 32 ans. C'est vrai que c'est une équipe avec des joueurs assez expérimentés, hein. 32 ans Almirón, Sanabia devant à 30 ans. En défense, Gomez, 33 ans. Alonso, 33 ans. Et au milieu, Andrés Cubas, ancien Nîmois pour les puristes du foot français, à 30 ans. Et lui joue à Vancouver, Maxime. La longue touche paraguayenne directement 6 mètres. Elle va être rendue, cette balle, à Matt Fries, qui va pouvoir éventuellement se dégager. Les Américains qui donc ont répondu par Balogun, qui ont perdu leur dernier match de préparation. C'était face à l'Allemagne 2-1 après avoir battu le Sénégal 3-2. Et avant, il y avait eu deux défaites face aux Portugais et face aux Belges, 2-0 face au Portugal et défaite 5-2 face à la Belgique. C'est ça aussi, hein, qui avait semé un petit peu le doute et des questions en mars et en avril du côté des hommes de Mauricio Pochettino. On a joué le 6 mètres court, le ballon est de retour dans les pieds de Matt Fries, qui va mettre sur sa gauche à Tim Ream, l'ancien de Fulham, qui joue aujourd'hui à Charlotte, qui repasse par son gardien Matt Fries sur sa droite avec Richards, qui avance, balle au pied, il n'est pas pressé pour l'instant par les Paraguayens. Il y a un décrochage au milieu de terrain de Tyler Adams, me semble-t-il. En tout cas, on a le temps de s'organiser pour décaler encore à gauche avec Ream, qui va passer le milieu de terrain légèrement décalé sur le côté gauche et qui va tranquillement transmettre à un coéquipier. On va repasser dans la défense avec Richards, qui va maintenant la mettre à droite avec Freeman, qui va appuyer sur le côté avec Serginho Dest ou McKennie, encore, qui a pris le couloir. Non, c'était McKennie, c'est ça?
C'est
non,
ça,
c'était
ouais,
Dest.
McKennie, ouais,
qui, ouais, c'était McKennie, ouais, et Dest qui se réaxe.
À s'enfoncer, hein, dans la défense paraguayenne, hein. C'est sa grande force aussi, hein, le dépassement de fonction. C'est vrai qu'il est vraiment très, très utile dans ce collectif américain. Moi, je suis un petit peu surpris par le pressing en tout cas la position des Paraguayens, hein, qui sont quand même positionnés assez bas. On sent vraiment qu'ils craignent les Américains, c'est assez surprenant. Alors, est-ce que c'est parce que les Américains jouent à domicile, visiblement les Paraguayens qui vont essayer de les contrer, ça se sent, hein, sur les transitions offensives. Mais ouais, clairement, on voit qu'il y a une équipe qui est un peu plus entreprenante que l'autre, et pour l'instant, c'est vrai que c'est les États-Unis.
Et là, ça se bagarre. 6 minutes de jeu, 0-0, et on va dire une situation de chaque côté pour le moment.
Merci beaucoup, Valentin. On reste évidemment avec toi pour tous les points chauds et les buts. Si il y en a, on est avec Mike, vous le savez, restaurateur à New York, le chef du Baratin. Mike, alors raconte-nous cette histoire. Donc, le Baratin, c'est un restaurant français qui se situe à West Village, donc un quartier de New York. Et tu as effectivement beaucoup de clients qui sont des Français sportifs. Ça a commencé notamment avec les joueurs de tennis, parce qu'il y a notamment l'US Open, bien évidemment, qui se joue dans quelques temps. Hein. Ça sera fin août, début septembre.
Fin août. Ça a commencé en 99 au restaurant de mon père, qui s'appelait Le Tout Va Bien à l'époque. Et on a eu un joueur qui est venu un jour et pendant les US Open, pendant les qualifs. Et on est devenus amis. Et tout ça, c'est devenu un deuxième joueur, un troisième joueur, un quatrième joueur.
Dis-nous, quel joueur ? Raconte-nous.
Bah, c'était Jérôme Golmar, qui est décédé maintenant, qui était le premier. C'est lui qui a... J'ai toujours dit, tout ce qui est sport, c'est lui qui a commencé.
Valentin, le but !
Et l'ouverture du score ! Est-ce que c'est bien Balogun qui a pu récepter ce centre de main gauche? Ben, ça contre son camp. On a vu là le plan sur le défenseur paraguayen. Balogun était juste derrière. 7ème minute de jeu. Et après ce débordement de la gauche et ce centre, le ballon propulsé par un paraguayen, un défenseur central, peut-être Gomez, le capitaine, dans son propre but. On montre pour le moment Freeman à l'image qui doit être impliqué dans l'action. En tout cas, les Américains profitent d'une erreur paraguayenne après avoir été entrepreneurs et mettre déjà.
C'est un travail de McKennie qui est au milieu de terrain. Va décaler sur le côté. Après, c'est Pulisic, la magie de Pulisic qui va s'insérer entre deux défenseurs. Et après, t'as un petit coup de flipper avec encore une fois McKennie qui va la donner à Balogun. Et derrière, on a la grosse erreur du défenseur paraguayen, ouais, qui la met dans ses cages.
Qui met un vrai CSC. Hein. Ouais, c'est Gomez, ouais, c'est ouais, bien lui, ouais, ouais, sur la passe de McKennie. En tout cas, gros boulot de Pulisic, t'as raison. C'est un double contact quasiment. En tout cas, une petite virgule pour le joueur du, ouais, Milan pour derrière envoyer à McKennie.
Il nous montre toute sa réussite technique, hein, Pulisic. Hein,
et McKennie, gros action-là. Volume sur le but aussi.
Ouais, ouais, exactement. À l'instar de son début de match, hein, McKennie qui fait cette course dans la défense paraguayenne qui attire deux joueurs et ça permet justement à Pulisic de se retrouver dans cette situation de 1 contre 1. Et puis derrière, malheureusement, il y a ce joueur paraguayen qui pousse le ballon en catastrophe dans son but. Ça fait 1-0 pour les États-Unis. Début, c'est parfait. Un super début. Hein.
Début parfait.
Entame de match.
Au passage, on parlait de tennisman français, McKennie, sosie de Joe Tsonga.
Ouais,
Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal.
Sosie de Joe Wilfried.
C'est pas mal. En tout cas, Mike, t'avais raison également. T'as dit les USA vont faire une entame de match très bonne avec un but rapide. Ça a été
le cas.
Ils sont
le foot, celui-là.
Ils sont le foot, effectivement. Alors,
en off, il m'a dit 3-0. Hein.
Eh bah, écoute,
on verra, on fera les comptes à la fin du match.
Là, vu le scénario, c'est largement possible. Donc, tu nous disais, Mike, effectivement, le premier qui est venu chez toi, c'est Jérôme Golmar. Tu le rappelles, malheureusement, qui est décédé de la maladie de Charcot, qui était un tennisman français. Et donc, après, c'est vrai qu'il est venu avec ses amis. Et donc, tu as eu tous les Français qui venaient disputer le US Open dans ton restaurant.
Ça, ouais, ça fait boule de neige. Tous les ans, on en avait plus et plus et plus. Et après, tu parles de Joe. Après, on a eu un jeune Joe à 17-18 ans et je suis venu très proche avec lui.
Songa, et, hein, là, tu parles.
Et une fois que t'as Songa, et tu as Songa, ça a changé le milieu de sport qui venait au restaurant après ça.
Bon, alors dis-nous tout, parce que dans les tennismans, il y en a eu quand même beaucoup. Il y en a certains qui ont brillé à l'US Open. On pense à Sébastien Grosjean, on pense à Arnaud Clément, on pense à Joe Tsonga, Gaël Monfils,
Lucas
le plus fêtard.
Ouais, parce qu'ils ont brillé sur les
il
cours.
Il n'a pas senti la fête. Ils étaient sérieux.
Ah
ouais.
Ah, bon
ah ouais, non, il n'a pas de fête, non.
Ah, bah, il n'y a pas de fête.
J'étais oublié à 10 ans.
Ah bah, alors, c'est bizarre parce que moi, le baratin, on me l'a décrit comme un endroit très convivial, festif, où l'accueil est exceptionnel. Donc,
moi, j'ai entendu qu'ils étaient, ils étaient meilleurs au baratin que sur les tennis.
T'es bon, t'as, je sais pas, je veux me faire tuer là. Je veux dire,
bon, on m'avait dit que la première semaine, il la faisait à l'US Open, la deuxième au baratin. Ah,
ouais. Mais maintenant, j'ai un problème.
Et parfois l'inverse.
Maintenant, je ne sors même pas des qualifs avec les joueurs. Avant, j'allais tout le temps deuxième semaine, mais maintenant c'est plus.
On a un trou générationnel au niveau du tennis français là depuis quelques années.
C'est Benoît. Il a deux ans de ça. Benoît Père, il me dit t'étais énervé quand tu rentrais pas en deuxième semaine, mais on t'est énervé quand on sort pas des qualifs.
Donc Benoît Père, gros fêtard. Mais c'est pas un scoop, attends, il y a aucun problème.
C'est non, fêtard.
Si tu dis pas,
fêtard non, mais un bon vivant et, c'est un des meilleurs mecs que je connais. Donc il a un cœur.
Ça se voit.
C'est un bon, lui, c'est un vrai.
Il est très vrai de toute façon. Il est parfois excessif, mais au moins il ne calcule pas. Il y a pas de langue de bois. Il est passionné de football aussi, on rappelle, un supporter de l'Olympique de Marseille. Ouais. Bien sûr.
Moi, je vais dire ce que Mike veut pas dire. Moi, j'ai vu des tennisman vraiment faire la fête chez toi.
Bah, lesquels? On veut les noms, bien sûr. Ouais, mais
je suis pas très très connecté tennis, mais si tu me les montres.
Comment tu savais que c'était des tennisman?
Ils ont la raquette dans la main. Ils ont la raquette dans la main.
On va trouver.
Mais je peux te dire, j'en ai vu quelques-uns faire la fête. Peut-être pas les veilles de match, mais l'avant-veille.
Non mais après de toute façon, vu qu'on rappelle que parfois les Français avaient des difficultés, une fois qu'ils étaient éliminés, ils pouvaient rester quelques jours à New York et venir fêter au baratin tranquillement.
Voilà, venir fêter la défaite.
Non, le bonheur d'être aux États-Unis, écoute.
Et qu'est-ce qui fait le succès? Pourquoi ils se sentent bien les joueurs de tennis ou en tout cas les stars sportives?
Le tennis, je pense vraiment que ils sont aux États-Unis depuis 7-8 semaines.
Ouais.
Ils commencent à Miami, après ils vont à.
Non, pas à
Miami.
Il y a Washington,
ils commencent à Washington, après ils vont à Cincinnati.
Exactement. Il y a Toronto, Montréal.
Et je pense que ça fait 6-7 semaines qu'ils sont aux États-Unis, au milieu de nulle part.
Et là, ils décompressent à la fin.
Ouais. Et après, ils arrivent et ils trouvent un restaurant français. Mais ça a changé. Avant, les autres, ils étaient tous ensemble. T'avais des tables de 15-20. T'avais Laudra, Mahu, Joe.
Ah ouais.
Maintenant, ils sont tous dans leur clan avec leur coach.
C'est différent.
La nouvelle génération est différente.
C'est plus dur
à les approcher.
On rappelle que c'est vrai, c'était vraiment une bande de potes. Là, tu parles, rappelle Mickaël Laudra, Sébastien Grosjean, Arnaud Clément,
la Coupe Davis, quoi.
La Coupe Davis.
Maurice Mo, tous, même les femmes. Pauline Parmentier, tu peux mettre la dente. C'était toute une.
Et ils t'ont emmené.
Est-ce que t'as eu Émilie Lillois?
Oui, bien sûr.
C'est une très bonne copine.
Tu peux demander. Mike, tout va bien et elle a sa
place. Ah, elle nous écoute très souvent à RMC parce que fan de foot également.
Ça, je te promets. Émilie Lillois, tu peux dire.
Ah, ben je vais lui envoyer un texto.
Camille Pain, toute cette génération-là.
Et est-ce qu'ils t'ont emmené aussi dans leur histoire tennistique, c'est-à-dire est-ce que tu as été voir des gros matchs dans les box?
Moi, j'ai fait pas mal de Coupe Davis.
Ah ouais, Coupe Davis,
j'étais en Serbie.
Ah ouais, d'accord, le 2010 là quand ils perdent, ouais.
J'étais en Serbie
avec Djokovic qui est monstrueux.
Je me suis toujours pas remis.
Ouais.
J'ai fait les deux finales à Lille.
OK, donc celle-là contre la Belgique et
la Suisse.
Et la Suisse.
Et les Suisses quand ils perdent contre les Suisses.
Ouais, contre les Suisses.
J'étais à cette finale.
T'as quand Gaël, il tape Federer sur le premier match quand il a un problème au dos.
Des beaux trucs, j'étais invité au dernier de Joe à Roland.
OK, contre Rude, Casper Rude.
J'étais à ce match.
Ouais.
Ouais, j'ai eu des moments.
Ah ouais, d'accord.
T'es un fan mariage de Joe.
Ouais. Mais t'es un fan de tennis à la base ou tu?
Non, j'ai rencontré un mec et on avait le même âge, 18 ans à l'époque. Et là, je connaissais rien, les qualifs, les ça. Je connaissais le US Open, mais c'est tout.
Ok, ok.
Et après.
Ils t'ont mis dedans.
Après, je suis rentré dedans.
Pour la petite anecdote, il passe à l'US Open en étant kiné, non, c'est ça? Il donne des accès.
Cette année, c'était mon 24e badge.
En tant que kiné.
Bon, l'année dernière, j'étais coach de Nicolas Mahut.
Officieusement.
Ah ouais, d'accord. Okay.
Officieusement.
Très sympa, Nicolas Mahut aussi.
J'étais coach de Benoît Paire aussi une année.
Ah, ok, ok. D'accord.
Ils sont pas très regardants sur les accréditations.
Non, ça va, ça passe, ça passe.
Ça passe plutôt bien. Et ton plus grand moment sur un match de tennis, que ce soit l'US Open, que ce soit Roland Garros, une finale de Coupe Davis, c'est lequel?
Moi, je vais te dire des trucs que tu vas pas trouver normal, mais moi, c'est quand un. Je sais pas, sûrement peut-être vous avez pas le connaître, mais comme un Vincent Milo, je sais pas si tu le connais.
Non, là je l'ai pas.
C'est un mec qui a joué 9-10 ans, tous les ans il faisait des qualifs, jamais qualifié, il s'est qualifié. Son dernier réseau, il s'est qualifié, pour moi c'était.
Ah oui.
C'est des petits moments comme ça.
Ok, ouais. D'accord.
Il y en a plusieurs comme ça qui sont. Pauline Parmentier qui se qualifie, qui joue Davenport à l'époque dans le grand stade. Mais oui, bien sûr, Coupe Davis.
Et t'as des gros tennisman pas français qui sont venus aussi ou pas?
J'en ai eu plein.
Ah ouais, tu nous as dit Coco Gauff là actuellement, c'est ça?
Ah, Coco, je l'ai depuis qu'elle a 16 ans.
Ouais.
Et tous les ans, quand on est post best restaurant in New York, favorite restaurant in New York, meilleur restaurant in New York.
Ah ouais.
Quand elle vient. Mais elle, je l'ai eu avec JC Forel, qui est un de ses entraîneurs depuis qu'elle est petite.
Ok, t'as eu Roger ou pas?
Non.
Et Rafa?
Rafa, j'ai eu toute sa famille, son oncle, son père et tout ça, mais j'ai jamais eu Rafa.
Et Novak?
Novak, je suis même pas sûr que je le sers parce que je me suis pas remis de la Serbie.
Ah oui.
Non.
Alors Coco Gauff, on rappelle qu'il a gagné Roland Garros, c'était en 2025, qui s'est imposé également à l'US Open. Est-ce que tu as déjà eu, parce que moi par exemple, je suis fan absolu de, il y en a deux, il y a André Agassi et Gustavo Kuerten.
Curton, non, Agassi, oui, mais tout va bien, restaurant de mon père.
Ah, et sympa, André Agassi.
C'est très gentil.
Oh là là, magnifique.
Ça. Et les stars NBA, t'as eu de la star NBA?
Bon, on a eu Wemby mardi.
Non.
Ah, ouais. Donc avant le match face aux Knicks, qui a été évidemment terrible pour les Spurs.
On a eu Wemby avec sa famille.
Et il peut rentrer dans le restaurant, il se passe rien, les gens
vont. J'ai fermé.
Ah, t'as fermé, d'accord, ok.
En fait, ils m'ont appelé, restaurant privé, on avait, je sais pas, une cinquantaine de raisins, et j'ai appelé tous les raisins en disant la hotte de la cuisine avec claqué.
Ah, tu leur as menti.
Enfin, c'est une honte,
c'est
Mike.
C'est Wemby.
Alors, on est Wemby, on a le droit à la privatisation du restaurant.
Mais
et
où
on est
fond.
Janine qui vient de Montluçon.
Ouais, tu as le meilleur burger du monde.
Bah oui, mais enfin bon, là, ceux qui avaient fait leur réservation.
C'est les États-Unis, c'est
Wemby. On lui en veut pas.
On ne refuse rien à Wemby. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que tu lui as servi un repas délicieux et le lendemain, patatras.
Ah, t'as vu comment il a commencé le match?
Ah ouais, enfin, j'ai vu comment ça s'est fini.
Tout le monde me textait, mais qu'est-ce que tu lui as donné? Il était.
À plus 29, plus 29.
Il était le feu au début.
Finalement, défaite à un point.
Ouais, manque de sucre.
Terrible. Terrible. Alors, on a parlé de certains sportifs, on va parler également des footballeurs, parce que c'est vrai qu'au baratin, il y a notamment des maillots qui sont affichés.
Plein. Il a 3 ou 4 maillots de Chano, toutes les équipes qui les appellent.
Qu'est-ce que.
Ah, faut que tu nous racontes, Maxime Chano. Alors, c'est quoi au baratin? C'est quoi l'histoire?
Bah, l'histoire.
Comment t'es arrivé au baratin?
Je pense qu'on l'a résumé, hein. C'est vrai qu'il y avait énormément de sportifs qui étaient. Alors, moi, initialement, j'ai été avec les joueurs des New York Red Bull, que tu connais très bien, dont Damien Perinel, Aurélien Collin, Ronald Zubar. C'était eux qui ont presque découvert, j'ai envie de te dire, le restaurant. Et puis, de fil en aiguille, bah, écoute, je les ai suivis, toujours, évidemment, très sérieusement, tu vois. Et surtout, après les matchs, pour le coup.
Donc, ce qui est quand même génial, c'est que les deux clubs de New York, qui sont quand même ennemis normalement, Red Bull et City, finalement, ils allaient dîner ensemble et
faire
On se retrouvait pour aller faire la fête après les matchs.
Voilà. Et pendant les derbies, on faisait croire qu'on était des ennemis.
Tu fais pas la fête, toi?
Jamais.
Moi, c'est jamais.
Oui, voilà, ça dépend ce que t'appelles fête.
Ah oui, la fête des mères, la fête des pères.
Pour moi, un petit burger avec une mousse au chocolat, c'est une fête.
Exactement.
Quand t'as été footballeur professionnel et que tu manges des salades tous les jours.
Toi, t'es quelqu'un naturellement de très festif dans la vie, quoi. C'est voilà.
Je suis pas le
plus. La vie, tu le fêtes. Pour toi, la vie,
c'est surtout ça. C'est surtout ça, Walid. Sache-le. Donc, il m'a un peu perturbé, là, Walid.
Non, t'inquiète pas.
Non, et donc, en fait, de fil en aiguille, on est arrivé là et puis c'est devenu un petit peu le repère. C'est devenu un petit peu le repère à tel point que quand on a gagné le championnat, nous, avec New York City, on est venu fêter. Alors, tu vois, ils nous avaient aussi privatisé le restaurant.
Pour tous les repas des clubs aussi.
C'est vrai. Donc, souvent, on allait chez lui et puis finalement, tu rencontres toujours des amis, des copains. Steve Savidan, par exemple, la dernière fois, qui est chez nous à RMC, que j'ai croisé. Enfin, bref. Donc, tu croises forcément quelqu'un que tu connais. Et puis, finalement, évidemment, quand t'as un patron comme Mike qui est juste la gentillesse incarnée, c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'y aller. Mais c'est vrai que c'est devenu un peu le repère de tous les Français à New York. Et je suis très heureux parce que visiblement Walid a apprécié sa venue il y a deux jours.
Ah ouais, non, ils nous ont très très bien accueillis. Ça a été vraiment royal, extraordinaire.
Qu'est-ce que tu as dîné?
On a dîné. Alors on a eu.
On a
eu de la petite pizza à la truffe, ouais. Petite pizza à la truffe délicieuse. On a, il y a eu un tartare, je crois, mangue saumon.
Un petit croque-monsieur.
J'ai laissé ma part aux autres. Et après, on a eu quoi? Après, j'ai mangé des moules. Ouais. J'ai mangé des moules au safran avec des frites.
J'ai pas vu les.
Ouais, c'était pas mal du tout.
C'est
et vraiment.
On s'est régalé.
Il y avait aussi un petit feuilleté au brie qui est un Régis Le Brie, voilà. Comme on l'appelle.
Dédicace à Kevin Diaz parce qu'il l'a mangé seul quasiment.
Ah ouais, il a pas laissé sa part à l'autre.
Ça devait être bon. Donc.
Et puis surtout, la réalité, c'est qu'au-delà de la cuisine délicieuse, c'est le service, l'accueil et puis surtout ce qui se passe à l'intérieur dans la densité. C'est-à-dire qu'on a un milieu de terrain. Vous avez vu le début de match de McKennie? Bah, Maxime Chano est box to box, quoi. Il est à la terrasse, à l'intérieur, à l'intérieur. C'est-à-dire
il est partout.
Ah, il est partout.
Bah, c'est bien, je me sens chez moi. Ouais.
C'est bise sur bise, c'est serrage de main sur serrage de main.
J'ai senti que l'équipe d'RMC demandait beaucoup d'attention, donc je suis rentré pour aider un peu dans le service.
Mais bien évidemment. Pour moi, sincèrement, si je sortais du coma pendant 20 ans et qu'on m'avait dit que c'était David Beckham, sincèrement, je.
Tu crois?
J'y crois vraiment.
David Beckham, est-ce que tu l'as eu comme client?
Non.
Jamais.
Maxime, il a fait un truc au baratin que j'oublierai jamais, un truc magique. Il m'appelle à midi, il me dit t'as deux heures pour arriver au baratin, il faut que tu portes une cravate, une costume, une veste. Mais qu'est-ce qui me semble, toi? Alors j'arrive au baratin et lui il arrive avec la presse, la télé, les gens importants du club. Et il me dit, en fait, ils veulent me prolonger mon contrat. Et je leur ai dit, quand je signe au baratin. Alors, ils sont venus filmer, prendre les photos et tout. Il a prolongé son contrat au baratin.
Quand t'as prolongé, donc, au
New York City. Ouais.
Je suis parti 6 mois après.
J'ai trouvé ça magique.
Tu leur as mis une carotte.
Oui, j'ai pris l'argent, je suis parti. Ouais.
Et Mike, on parlait des footballeurs. Quels sont les footballeurs les plus connus que tu as pu servir, que ça soit étranger ou français?
Étranger français. Bon, j'ai Dempsey qui vient souvent.
Patrick.
Ouais,
Patrick.
Non, Clint.
Clint.
Ah oui, Patrick, c'est l'acteur, non?
Oui, non. Patrick Dempsey, c'est le mec dans les hôpitaux, là, comment il s'appelle? C'est Grace Anatomy. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Mais c'est pas possible.
J'étais plus marqué par Patrick que par Clint, excuse-moi.
Elle est en docteur Mamour, elle, c'est bon, il est quoi? Il est 2h22.
J'adorais cette série.
Et 3h22, elle est en docteur Mamour, elle. Épisode 3 de Grace Anatomy.
J'adorais cette série. Ah oui. Clint, bon, il m'a moins marqué.
T'as pas mal de joueurs de cette équipe là, d'équipe nationale qui viennent chez toi.
Ah, Wea, Timothy Wea,
le gardien,
Tyler Adams.
Tous les jours. Ouais. Adams, Tyler Adams.
Qui joue à New York Red Bull.
Tijan Polisic.
Polisic le servait une fois.
Comment on dit Polisic?
Polisic.
Polisic.
Ah oui, là c'est un autre joueur.
Ah ouais, il joue, le mec il est tchèque. C'est Polisic.
C'est un autre joueur, là on l'aurait jamais reconnu.
J'aime beaucoup les prononciations. Tu peux nous faire les prononciations comme ça des joueurs des États-Unis? Tyler Adams, c'est quoi?
Tyler Adams,
ok, ça va, c'est logique.
Mike Freeze, le gardien.
McKennie, comment on dit?
McKennie.
Ok, d'accord. McMécanique. C'est Orange Mécanique. Balogun?
Nous, on a du mal, nous. C'est Balogun. Yeah.
Balogun, ok, d'accord.
Et Berhalter, tu le dis comment?
Bo Halter.
Ok.
C'est Halter.
Prof d'anglais, tu as pensé ou pas?
J'aime beaucoup.
Magnifique. Ah ouais, non, l'accent est incroyable.
Sergino Dest, comment on dit? C'est Dest.
Dest.
Il n'y a pas de.
Il y a beaucoup quand même de Français qui ont joué aux États-Unis, on le rappelle. Il y a évidemment Youri Djorkaeff, il y a Thierry Henry, il y a Patrick Vieira qui a été entraîneur à New York City. Tous ces gens-là, ils sont venus chez toi?
Tous, je faisais. Ou tout va bien au restaurant de mon père à un moment, ou au baratin maintenant.
Tout sympa? Tous généreux
tous,
ou
tous.
Des radins?
Non, non,
dis la vérité, Mike, non, c'est bon.
Il y en a qui sont un peu plus.
Il y en a qui partent sans payer.
Ouais, t'en as qui se prennent un peu trop là.
Ah ouais?
Lesquels partent sans payer?
Non, ça faut pas dire.
Ouais, non, mais c'est vrai.
Non, mais t'en as qui se prennent pour. Ouais, c'est des stars, c'est normal.
Kevin Cavigna, c'est parti sans payer.
Et avec un bout de brie dans la poche.
Exactement.
En général, les joueurs, non. Ça ne peut jamais te prendre avec les joueurs.
Et Mike, on me dit que dans ton restaurant, donc qui est vraiment un endroit à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas encore le baratin qui est situé à West Village, il y a même un Oscar.
Ouais.
Ah, on l'a touché. Ouais. On l'a eu.
Raconte-moi cette anecdote. Ouais, pourquoi il y a un Oscar chez toi?
C'est pas Kevin Diaz qui l'a gagné d'ailleurs.
Ouais, exactement.
Il a gagné, c'est un acteur qui a gagné pour Amadeus,
oui,
en français. L'acteur, il est dans Scarface, il est dans Homeland, il est et il nous a donné après Covid parce que.
Mais pourquoi il pouvait pas payer la note s'il t'a payé en Oscar?
Non, mais on va pas parler Covid. Mais moi, pendant Covid, j'étais à l'extrême de les autres à New York. J'ai jamais fermé. Voilà. J'ai jamais fermé le resto. Et après, il faisait des passes pour les gens qui rentrent et tout ça. Tu devais être vacciné. Moi, j'ai fait l'inverse. Je lui ai dit, si t'es vacciné, tu peux pas rentrer. C'est trop dangereux pour les non-vaccinés. Et t'as l'acteur et tout ça, il trouvait ça magnifique et il m'a donné son Oscar.
Ah oui, d'accord. Et donc, l'acteur, on peut donner son nom?
Ouais, Abraham Murray. Il est dans Scarface, il est dans.
D'accord. Alors, enfin, Abraham Murray pour nous qui n'avons pas du tout l'accent parce que sinon on va jamais retrouver.
Tout le monde le connaît maintenant pour White Lotus. Le
frère. Oui, White Lotus, très oui. Bonne série.
Le frère d'Andy.
Dans la, ouais.
Ben peut-être le cousin.
Le cousin d'Andy Murray.
Peut-être que c'est un cousin. Abraham Murray. Donc tu as un Oscar.
J'ai m'a donné son Oscar.
C'est magnifique.
Pour meilleur acteur.
Ça vaut combien ça, tu penses?
Ah, je ne vais pas regarder.
D'accord, ok.
C'est incroyable. Ah, oui, en plus c'est de l'or. Hein,
ah ouais. Oui.
Et Maxime, attends, Maxime, quand NYCFC a gagné le titre,
oui. Ah, j'ai pas gagné l'Oscar, si.
Non. Mais lui et trois ou quatre autres joueurs, ils m'ont donné pas la catégorie 1, mais ils m'ont donné la catégorie 2, la bague. Ils m'ont fait une copie qu'ils ont gagnée pour remercier le baratin.
Un peu à la Griezmann, tu sais, quand Griezmann a fait une bague de champion. La vraie était trop chère.
Mais attendez, vous faites les bagues comme pour les vainqueurs du championnat NBA?
La NBA fait surtout comme nous.
Ah, c'est la NBA qui fait comme nous.
Qui a copié,
c'est de la part de 3 ou 4 des joueurs de NYCFC pour remercier.
En parlant de NBA, de MLS, les mecs de ton équipe, ils y allaient, là, les Pirlo, les David Villa, etc.
Après, ils sont vite partis.
Pourquoi?
Parce qu'ils étaient peut-être trop souvent au baratin, d'ailleurs.
Ah, d'accord, ok, d'accord. Ah, donc, t'étais une mauvaise influence?
Pas moi, Mike.
Ah, d'accord.
Je suis un suiveur, tu sais.
Ah, ok, d'accord.
Franck Lampard, il venait?
Il est vrai, oui, Franck est venu avec moi deux fois. En fait, ce qui est vrai, c'est que Mike a tendance à il nous reçoit très bien. Donc c'est vrai qu'on se sent un peu comme à la maison et
on a envie de revenir.
Et c'est vrai qu'on a envie de revenir et c'est pas forcément très compatible sur une vie professionnelle. Non, je rigole.
Ils sont en pré-retraite les mecs en MLS.
David est venu aussi. David est venu deux fois. En fait, souvent on venait avec l'équipe. En fait,
faisait des repas de l'équipe où il venait après les matchs. Quand on avait des matchs tôt, parce qu'il jouait rien. Il va avoir un nouveau stade bientôt, mais je vois Yankee Stadium qui est pas très loin. Oui. Ça, c'est assez rapide.
Est-ce que Titi Henry est venu?
Oui.
Oh oui, tout va bien, oui.
Ah ouais, tout va bien, d'accord.
Et il y a beaucoup Bagatelle aussi à l'époque.
D'accord. Et en NBA, est-ce que le King, est-ce que LeBron James est venu?
Non.
Par contre, il y avait souvent Franck qui était là.
Franck Nelikina. Ouais.
Mais ce qui est intéressant, c'est que, est-ce que tu fais comme certains établissements en France qui veulent aller chercher des guests, des gros stars pour les réseaux sociaux, ou c'est véritablement en fait les gens qui viennent à toi?
Ils viennent. Moi, j'ai jamais texté un joueur.
Toi, t'as pas envie, t'as pas besoin, businessment parlant, c'est ils viennent.
Et question un peu plus sérieuse. Est-ce que t'as certains joueurs qui arrivent avec leur cuisinier, en tout cas qui te demandent de manger des repas spéciaux? Je pense évidemment à l'US Open parce qu'ils sont quand même en pleine.
Avant, on avait des menus, on avait comme un Joe, qu'on était top 10.
Ouais.
On avait qu'est-ce qu'il devait manger, on avait tout organisé.
Donc il t'envoyait avant son menu.
Tout avait avant.
Donc t'étais obligé.
On part d'acteur maintenant. Ouais. Mais tard.
Tard Raïm.
Ah oui, c'est mon frère.
Ah ouais, d'accord.
Lui, c'est la famille.
Lucas, il venait chez toi.
On l'entend pas, Karine.
Dark Vador.
George Lucas, parce qu'il est au stade là actuellement.
Dark Vador.
Il est venu?
Non.
Non, mais non, mais George Lucas est présent ce soir à Los Angeles.
Mais tard, quand il se préparait pour son rôle, là, le rôle.
Aznavour.
Après Aznavour, il a
joué
Aznavour.
Marion Cotillard.
Il pouvait rien manger. J'avais un menu. C'était des glaçons.
Quand il faisait le serpent là, comment c'était pas le. Après le serpent.
Il a joué un rôle.
Aznavour.
Très bonne série, le serpent là.
Oui, très bonne série.
Il
s'appelle Youri Djorkaeff.
Youri, c'est un des premiers Français à avoir joué en MLS.
Oui.
Il vient souvent, Youri?
Je l'ai pas eu au baratin depuis longtemps. Ah. Il est sérieux.
Ah, il est trop occupé maintenant.
Il travaille notamment pour.
Parce qu'elle aussi, elle connaît très très bien tous les joueurs de 98.
Ah. Parce que moi, je viens de Saint-Tropez.
Ouais, elle, c'est ça. Ah, c'est ouais. Saint-Tropez, avec les meufs qui pèsent.
C'est vraiment. Enchaînement magnifique.
28e minute de jeu, 1-0, et la pause fraîcheur. Alors, je me concentrais sur ça parce que la pause fraîcheur, j'ai l'impression qu'on a eu un nouvel épisode de la pub qui dure trop longtemps. Il y a eu ce petit problème sur un match précédemment, et donc là la pause fraîcheur était terminée, tous les joueurs étaient sur la pelouse et il y a un arbitre assistant qui était à côté d'un délégué visiblement et qui regardait un écran comme si on attendait que la pub sur le diffuseur américain se termine avant de reprendre. Le match est reparti. Pulisic en train de surface avec McKennie sur son pied gauche. McKennie, il va pousser pour Balogun, la frappe angle fermée au fond pour Follarin Balogun qui regarde l'arbitre assistant.
Il n'y aura pas de jeu. 2-0,
il y a peut-être hors jeu sur Pulisic au départ. 2-0 en tout cas pour le moment pour les États-Unis. Follarin Balogun, le casque qui ouvre son compteur dans cette Coupe du Monde et le drapeau se lève 5 minutes plus tard. Bravo Walid. Et l'action était partie vite en tout cas. Et tu penses que c'est sur le service qui est sur le côté gauche.
Mais c'est encore les mêmes. Hein. On prend les mêmes, on recommence. McKenny, Pulisic, dès qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose.
Que, Pulisic et McKenny dans les petits espaces, c'est très très fort. Tu sens qu'il joue au très haut niveau en Europe. Hein. Et on n'est pas passé loin donc du 2-0. On rappelle que le buteur, c'est un contre son camp et c'est Bobadilla, le milieu de terrain qui est annoncé. J'ai l'impression que c'était plutôt le défenseur Gomez. En tout cas, il y a bien 1-0 pour les États-Unis sur ce contre son camp, qui depuis ont eu les deux situations. D'abord Dest qui a été décalé côté droit par Pulisic et qui en angle fermé a vu son centre contré, mais il était quasiment seul. Et puis sur l'action suivante, une tête de Richards qui est passée juste au-dessus. Mais c'est le Paraguay qui a tiré à deux reprises et qui a plus tiré d'ailleurs que les États-Unis pour le moment. Deux tirs à 1, mais 1-0 au score pour les hommes de Pochettino. Et important aussi, il y a déjà deux cartons jaunes, Caceres, le latéral droit paraguayen, et Diego Gomez, le milieu de terrain, qui a pris ce carton jaune. Donc 29 minutes de jeu, 1-0, les États-Unis qui pensaient peut-être avoir doublé la mise, mais Balogun a vu son but annulé pour une position de hors-jeu. Et là on va avoir une touche d'ici quelques instants à la demi-heure de jeu.
Merci beaucoup Valentin. Évidemment on suit avec toi donc ce match entre les USA et le Paraguay. Tout va bien pour le pays co-organisateur, avec pour l'instant un avantage au score de 1-0. Merci beaucoup Mike d'avoir été avec nous pour toutes ces anecdotes. Et on rappelle hein, donc le Baratin situé dans West Village, un restaurant qui accueille toutes les stars mais aussi tous les gens sympas surtout.
Tout le monde est bienvenu au Baratin.
Merci beaucoup.
Beaucoup d'avoir été.
À part quand OMB privatise.
Voilà. Il faut pas tomber le soir de OMB parce que sinon c'est là chaud. On t'appelle pour
sinon
te dire qu'il y a la haute qui est en
sinon
panne.
C'est chaud.
Voilà.
Sinon c'est chaud.
Merci beaucoup Mike d'avoir été avec nous. Dans quelques instants on va parler du Maroc parce que demain il y a un très gros match. Maroc face au Brésil, ça sera juste là d'ailleurs au MetLife Stadium. Vous êtes sur RMC, on est ensemble jusqu'à 5h du matin en direct. À tout de suite.
RMC After Live, Intégrale Coupe du Monde.
Karine Galli. On est ensemble sur RMC jusqu'à 5h du matin en direct avec Walid Acherchour, avec Maxime Chano. Et vous le savez, les USA sont actuellement en train de jouer face au Paraguay. Valentin Jamin, il y a eu un deuxième but.
Et cette fois-ci, il est validé, le but de Follarine Balogun, qui a vu sa réalisation annulée à la 28e minute sur hors-jeu. Et là, il a suffi de 3 passes à Walid. Une excellente passe claquée de celui qui joue défenseur gauche, Robinson, en profondeur vers Pulisic. Et il y a débordement sur le coup, Pulisic qui se réaxe, qui centre, et Follarine Balogun qui, dans la surface de réparation, met son plat du pied droit. Pulisic encore impliqué. Ouais, Balogun,
Pulisic, il fait une super première mi-temps, mais bon, on n'est pas surpris. On sait que c'est le joueur de cette équipe, mais il répond présent dans cet événement rempli de pression pour les amis. Américain. Mais Balogun, McKenny, Pulisic, ça va trop vite pour les Paraguayens. On l'avait dit, équipe athlétique, il y a du mouvement, c'est mobile. C'est vraiment bien ce qu'ils font les Américains sur cette première demi-heure.
Après, la tactique du Paraguay là, d'attendre les Américains avec justement la qualité offensive qu'ils ont, hein, Pulisic, McKenny, Balogun, elle est quand même assez surprenante. Ils perdent 2-0, ils continuent quand même à avoir ce bloc bas. Je me questionne quand même sur la mentalité de cette équipe.
Et il y en a un qui a une grosse activité, Maxime. Je ne sais pas si tu connais bien Robinson, qui joue à Cincinnati, là, le joueur de 29 ans qui est avant-dernier passeur sur le but de Balogun, mais il a une grosse activité, une bonne qualité de pied. Là encore, il va servir sur le côté gauche, McKenny, finalement dégagement. En tout cas, il est très très bon pour le moment et il a permis à son équipe notamment de marquer le deuxième but après 34 minutes de jeu.
De toute façon, il y a de la qualité hein, dans cette équipe hein. On le connaît hein, on sait hein. Je me questionnais justement sur la qualité défensive qui pour moi était la carence de cette équipe nationale hein, on l'avait dit hein, notamment le capitaine Tim Ream. Mais là les Paraguayens finalement avec cette tactique assez basse quand même hein, ce bloc très resserré et très bas, parce qu'on peut appeler ça un bloc bas, c'est presque les Américains qui ont la possession de balle. Voilà, ils les mettent vraiment pas en difficulté, donc c'est assez incompréhensible pour être honnête. Je sais pas si l'entraîneur va essayer de changer quelque chose à la mi-temps, mais en tout cas il y a quelque chose qui va pas côté paraguayen. Et en tout cas les Américains sont super bons hein, sont performants. J'aime beaucoup le dépassement de fonction de Malik Tillman et de McKenny, les deux là ça fonctionne bien ce milieu de terrain.
Tous les hommes forts, ceux qui étaient attendus côté Team USA.
Attention avec encore une frappe peut-être de la part des Américains avec Tillman, je crois, qu'il a récupéré ce ballon. Ouais, donc il va essayer de la glisser dans la surface de réparation. Et il fait un très très gros contre-pressing. Le ballon a finalement été récupéré, mais on a du mal à sortir. Côté paraguayen, finalement, ça va partir sur le côté gauche. Et dégagement, donc 2-0, 35 minutes de jeu. Mais ils ne s'en sortent pas. Et les Américains ont déjà récupéré sur le côté droit avec Dest. Dest dans le camp paraguayen. 1, 2, 3, le slalom de la part du joueur du PSV. Le ballon est dans les pieds maintenant de Balogun, qui l'a récupéré malgré la faute sur Dest. Balogun à 25 mètres, qui va va écarter et qui va revenir en retrait, même vers Tim Ream, qui va écarter sur le côté gauche. C'était plutôt Robinson qui va trouver Pulisic, couloir gauche. Le 1 contre 1 face à Caceres. Le crochet de Pulisic, il est passé. Le centre du joueur de Milan, la tête de Balogun qui va juste prolonger le ballon au deuxième poteau. Mais il ne voit pas le jour. Les Paraguayens, le ballon est déjà récupéré, encore une fois, par les États-Unis, avec la passe sur le côté droit en direction de Dest, de la part de Richards, le centre de Serginho Dest. On a fait une petite poussette là du côté des États-Unis, mais le ballon est encore à l'entrée de la surface de réparation et encore récupéré, messieurs, par une équipe qui maîtrise complètement son sujet.
Ce contre-pressing américain, hein, dès qu'ils perdent le ballon sur les 3 secondes, hein, ils agressent les Paraguayens, hein, à 3 ou 4 Américains. Enfin, on sent vraiment que la patte Pochettino, hein, il les laisse pas respirer. Et c'est aussi la raison pour laquelle, hein, je pense que les Américains arrivent à mettre le pied sur le ballon, parce que les Paraguayens sont complètement étouffés depuis le début de ce match.
Les États-Unis qui sont vraiment bien rentrés dans ce match, 35 minutes de jeu, et les USA donc qui mènent 2-0 face au Paraguay. Messieurs, on va se tourner vers le premier choc de ce mondial. Là déjà, vous êtes tous d'accord, c'est un choc, ce fameux Maroc-Brésil qui va se jouer demain au stade, là dans le New Jersey. On a tous hâte de voir cette rencontre.
Ah oui, c'est pour moi, avec France-Sénégal, c'est les deux grosses affiches de ce premier tour.
On a effectivement eu aujourd'hui les conférences de presse, vous le savez. Alors, c'est une première pour Carlo Ancelotti en tant que sélectionneur. Il se retrouve sélectionneur du Brésil. Et c'est également important pour Wabi, qui vient d'être nommé après le départ de Regragui suite à la finale de la CAN. Aujourd'hui, Wabi était aux côtés d'Hakimi, le joueur du PSG et capitaine de la sélection marocaine. On écoute Hakimi sur les forces du Maroc.
Je pense qu'on sait, comme je dis déjà, que l'adversaire qu'on va jouer demain, on connaît la nation de Brésil, la qualité qu'elle a, les joueurs qu'ils sont, mais aussi nous, on a de la qualité, et ils s'appellent en Afrique, ils s'appellent nous les Brésiliens africains, ce que aussi on est des joueurs de qualité avec notre force. Je pense qu'on est prêt pour faire quelque chose de grand, avec la confiance, avec tout le soutien de tous les Marocains. Et je pense qu'on va être bien performant pour cette Coupe du Monde et bien commencer dès le match de demain.
Hakimi qui se présente évidemment avec beaucoup de certitude. Le Maroc est demi-finaliste du dernier mondial. Ils ont gagné, ou en tout cas ils sont arrivés en finale de la CAN. Il y a aujourd'hui sur RMC Hadji, la légende, qui nous disait: le Maroc peut regarder le Brésil dans les yeux. Est-ce que vous êtes d'accord, messieurs? Est-ce que ce match est très équilibré? Est-ce que pour vous il y a un favori ou pas du tout?
Le Brésil reste favori par rapport, je pense, à son passif. Mais c'est vrai que
ils n'ont plus rien gagné depuis 2002. Non,
passif,
niveau Coupe du Monde,
ça reste le Brésil, Karine. C'est-à-dire que les individualités sont quand même des top individualités. Et puis le Brésil, c'est même à l'instar de la France, de l'Angleterre, c'est des nations qui comptent dans le football moderne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si pour moi le Maroc est une des équipes nationales qui a le plus évolué sur les dernières années, évidemment il y a cette finale de CAN, il y a cette demi-finale de Coupe du Monde en 2022, il y a aussi ce championnat du monde U20 qui a été remporté par les Marocains. Quand tu regardes un petit peu sur les dernières années, l'équipe nationale du Maroc, pour moi c'est l'équipe qui a peut-être le plus évolué. Alors après, tu avais dit qu'il y avait des certitudes, il y a aussi des questionnements. Comment les Marocains, en tout cas les joueurs, vont réagir un petit peu à l'arrivée de Wabi? On sait que Wabi, c'est l'entraîneur qui a justement fait gagner cette équipe U20 au championnat du monde, mais on sait aussi qu'il n'a pas forcément l'expérience du très très haut niveau. Donc ça, moi, c'est vraiment la question que je me pose par rapport à cette équipe, surtout qu'il est arrivé quand même au mois de mars, donc c'est encore très très récent. Mais oui, moi je pense sincèrement que les Marocains, quand tu vois aussi leurs individualités, ils peuvent regarder sérieusement les Brésiliens dans les yeux.
Walid, est-ce que parce que on nous dit Brésil, pays du football, évidemment avec tout le poids de l'histoire, forcément on ne surestime pas un peu cette nation? Depuis 2002, il y a eu quand même beaucoup de désillusions aussi avec la Seleção.
Oui, il y a eu des désillusions. Après, faut voir aussi comment le Brésil sort. En 2022, ils sortent au tir au but contre la Croatie. Voilà, en 2018, ils sortent contre la Belgique avec un Courtois incroyable. Oui, il y a flop. C'est le cas, c'est factuel depuis un moment pour le Brésil. Après, c'est jamais une mince affaire de les sortir. Donc moi, je respecte quand même le Brésil, même si collectivement, moi, je pense que le Maroc est supérieur. Ils sont et pour moi je pense que collectivement le Maroc a plus de certitudes. Okay. Je pense que en fait tu fais l'association des individualités. Le Maroc est beaucoup plus compact et beaucoup plus cohérent, je pense, par rapport au Brésil. Par contre, sur les individualités, pour moi, il n'y a pas photo. Le Brésil est bien, bien supérieur au Maroc. Malgré le fait que le Maroc ait réduit l'écart avec un travail de fond magistral, exceptionnel de la fédération depuis un moment. Je ne vais pas paraphraser Maxime. Il a tout dit sur la dynamique récente. C'est aujourd'hui l'équipe avec le Sénégal qui peut faire un gros parcours en Coupe du Monde sur le continent africain. Maintenant, attention, parce que Karine, moi j'entends ces derniers jours sur RMC pas mal de consultants que je respecte, hein, bien évidemment, ou même des éditorialistes, où j'ai l'impression qu'en fait on est en train de passer de l'autre côté. En fait, j'entends des choses, on dirait c'est le Maroc qui est favori.
Et pourquoi pas?
Non. Parce que
le poids de l'histoire.
Oui, le poids de l'histoire, parce qu'il y a aussi des questionnements sur le Maroc, sur le nouveau sélectionneur, parce qu'il y a aussi pas mal de joueurs qui n'étaient pas là en 2022 ou qui n'avaient pas ce rôle-là en 2022 qui vont jouer avec le Maroc. T'as l'incorporation de Bouadi et d'El Aïnaoui qui sont deux super joueurs, mais la Coupe du Monde, ça reste la Coupe du Monde. T'as Aguert qui s'est blessé, t'as Abdé qui était en grande forme aussi qui s'est blessé. T'as l'histoire du numéro 9 avec Saïba qui va jouer au poste de faux numéro 9.
C'est pas vraiment, voilà, son poste.
Non, mais moi je dis vraiment, si demain tu me dis que le Maroc fait un coup contre le Brésil, je suis OK avec ça. Je vais continuer à valoriser quand même, parce que maintenant, vu que le Maroc a fait demi-finale de Coupe du Monde, mais attention, il faut pas que ce soit un one shot. Là, le plus dur, c'est la confirmation pour le Maroc. Moi, je continuerai à valoriser une victoire du Maroc contre le Brésil. Moi, je te le dis dans les yeux, Karine, si le Maroc gagne demain contre le Brésil, ils envoient un sacré message à la Coupe du Monde. Ouais. On peut pas me dire que tout le monde. Alors, on sera pas sur le cul comme en 2022, oui, quand ils sortent l'Espagne ou quand ils sortent le Portugal. Parce qu'il y aura une force, il y aura une récurrence, mais quand même, moi si on fait le rapport de force sur les individualités, moi je pense qu'il y a deux trois joueurs max qui jouent au Brésil du côté du Maroc. Il y a Hakimi, Mazraoui, peut-être Bono et encore. Et allez, tu me prends un mec comme Non, pour moi Diaz il joue pas. Pour moi Diaz il joue pas au Brésil. Pour moi Rafinha et Vinicius mettent une tempête à Brahim Diaz.
Donc
footballistiquement.
Tu le prends pas dans la sélection.
Je te parle de le 11. Et par contre, moi je pense qu'il y a au moins une quinzaine de joueurs du côté du brésilien, du Brésil individuellement, qui jouent titulaire au Maroc. Hein. Je pense que même que João Pedro qui est pas dans la liste, qui est titulaire avec Chelsea, je pense qu'il est marocain et il est titulaire avec le Maroc.
Oui,
donc le vivier brésilien est quand même à respecter. Maintenant, la mise en situation collectivement, ça va être tout le travail de Carlo Ancelotti. Pour moi, ils sont en retard. Ils sont en retard par rapport au Maroc. Mais on sait très bien que dans ce type de compétition, c'est la magie d'un Vinicius, la magie d'un Rafinha, un Bruno Guimarães, ces joueurs-là qui peuvent faire la différence. Moi, tu prends la charnière centrale du Brésil, par exemple, et la charnière centrale du Maroc. Pour moi, il y a pas photo. Gabriel Marquinhos, c'est quand même très, très solide en termes d'expérience. Donc voilà. Oui.
Après, il faut voir aussi dans quel état est Gabriel, par exemple.
C'est un match très excitant, mais attention quand même à ne pas banaliser une potentielle victoire du Maroc. Moi je trouve on est en train de s'échapper un peu de
je
trouve que le débat on le retourne là en disant ouais, le Maroc s'il les surprenne c'est normal, les gars attention quand même,
et attention à pas trop non plus comparer le parcours du Maroc avec celui de 2022, parce que n'oubliez pas qu'en 2022 il y avait beaucoup moins d'équipes, c'est-à-dire que quand tu sortais des poules t'as dérivé directement en 8e de finale. Là avec ce nouveau format t'as un 16e de finale supplémentaire, donc pour arriver en demi-finale au moins pour pouvoir égaler le parcours
trois équipes
fait,
sur c'est-à-dire que tu, voilà,
exactement ça devient un peu plus dur.
Et avec un statut qui sera différent, parce que là, le Maroc, tout le monde les respecte, tout le monde sait qu'il y a une valeur, qu'il y a des vrais joueurs, on va peut-être leur demander de jouer un peu plus au football par rapport à 2022 où il y avait une équipe qui devait calquer son foot avec Walid Regragui, où ils ont été très intelligents face au Portugal, face à l'Espagne. Je te donne un exemple, mais pour moi, le Maroc a changé de statut. Ils ont changé de statut. Et ben quand ils vont jouer, je sais pas, en 16e le Japon ou une autre équipe, etc., ils seront sûrement favoris. Comment ils vont gérer tout ça?
Oui, mais c'était le cas aussi. Alors c'est pas la même chose, mais la CAN au pays, il y avait une pression de dingue. Ils étaient attendus à tous les matchs et ils sont arrivés en finale. Ils ont gagné ou pas. Mais enfin bon, bref, au final,
ils n'ont pas gagné sportivement en tout cas. Voilà. Ils l'ont gagné.
Ils ont fait ce qu'ils devaient faire avec une pression qui était complètement folle.
À moi, je trouve que la
je trouve que la compétition du Maroc, elle est à valoriser parce que, comme tu le dis, il y avait une pression sans commune mesure. Et les matchs contre le Cameroun et les matchs contre le Nigeria ont été très très bien gérés et qu'il y avait une ligne de récupération haute, même si c'était pas un football chatoyant, mais ils ont réussi à se renouveler. Et puis surtout, ils ont des joueurs aujourd'hui, avoir El Aïnaoui et Boadi.
C'est un très beau message, hein, à convaincre des binationaux.
Bien évident, parce qu'il y a le cœur, mais il y a aussi, je pense, moi, tout qui est réuni pour que ces joueurs-là s'expriment sportivement.
Il y a un élan,
il y a un élan qui est super, qui est énorme. Donc moi en tout cas, je suis très très excité, mais voilà, je voulais quand même remettre les points sur les i là-dessus. Victoire du Maroc contre le Brésil, vraie perf.
Mais pas exploit, mais vraie perf.
Et le Brésil favori quand même, les gars.
On est d'accord qu'il y a encore que quelques années, on n'aurait jamais mis le Maroc dans cette position-là.
Mais ça prouve aujourd'hui
l'évolution du Maroc et à quel point la fédération a très bien
travaillé. Ils ont réduit un écart. Encore une fois, si tu dois comparer le vivier marocain et le vivier brésilien, c'est qu'à un moment, il y a eu un travail de fond qui a été fait. En 2002, tu compares le Maroc et tu compares le Brésil, c'est incomparable.
Je suis d'accord avec toi. Après, c'est cyclique. On sait que aujourd'hui, les Brésiliens sont dans un cycle un peu plus compliqué. Quand tu regardes individuellement, il reste énormément de talent. Vous l'avez dit avec Rafinha, je pense à Vinicius, évidemment Neymar. D'ailleurs, c'est un sujet sur lequel on pourrait débattre.
Vous me citez trois joueurs.
Tu prends Bruno Guimarães.
Il y a 15 ans, tous les joueurs du Brésil quasiment te faisaient rêver.
C'est pour ça que je te disais qu'aujourd'hui, c'est cyclique. C'est qu'aujourd'hui, au Brésil, c'est vrai qu'ils sont dans un cycle qui est peut-être un peu moins chatoyant, comme tu as dit. Vraiment, c'est vrai que par rapport à cette génération de 2006, où est-ce qu'ils nous ont fait rêver avec des Rivaldo, des Ronaldo et compagnie. Là, quand tu regardes actuellement l'équipe du Brésil, ça te fait peut-être un peu moins rêver, certes, mais ça reste quand même une grande nation. Évidemment, il y a ce qu'ils ont fait dans le passé, il y a toutes ces victoires en Coupe du Monde, il y a cette expérience, et puis surtout, t'as un Ancelotti, je pense qu'il va aussi vouloir montrer que, voilà, c'est un tacticien qui est en mesure de pouvoir gérer tous ses égos. Je reste quand même persuadé que Neymar a été une erreur de le sélectionner, et surtout quand tu parles de Joao Pedro qui reste à la maison, ouais, je comprends pas trop pourquoi ils ont choisi Neymar après, encore une fois.
Je pense pas que ce soit le même profil, mais en tout cas, il a pris la place d'un offensif, ça aurait pu
être Joao Pedro comme un autre, et c'est vrai que d'avoir Neymar qui est dans la situation qu'il est actuelle, j'espère que ça va pas être un poids pour ce Brésil, mais actuellement, si tu compares les deux équipes, il n'y a pas photo, le Brésil est devant, mais collectivement, je pense que le Maroc peut regarder le Brésil dans les yeux.
Non mais Karine, en fait, ce que je veux te dire, c'est que il y a un prisme brésilien négatif par rapport à ce qu'on a connu étant plus jeune, d'accord, mais le dénivelé entre les deux, si tu regardes sur les dernières compétitions, le Brésil, c'est minimum quart de finale.
Oui, mais c'est pas assez pour le Brésil.
Mais là, tu me présentes un match entre le Maroc et le Brésil, pas entre le Brésil et la France, pas entre le Brésil et les meilleures équipes au monde, même si pour moi, le Maroc peut être dans un deuxième chapeau, voire dans un troisième chapeau. Ce que je veux te dire, c'est que ce qu'a fait le Maroc sur la demi-finale de la Coupe du Monde, c'est pas une anomalie, mais c'est un exploit monumental.
Bien sûr,
par rapport aux 20 dernières années ou même aux 50 dernières années de ce pays. Ils sont sur une dynamique positive, ascendante. Mais maintenant, aujourd'hui, en fait, faut pas prendre ce résultat-là comme la normalité pour le Maroc. Alors, oui, ils jouent le Brésil tout de suite, et ça va être intéressant de voir comment ils vont pouvoir les challenger, mais les favoris, ça reste quand même le Brésil. Quand tu as sur le banc, tu vas avoir des joueurs qui ont mis des 20 buts en Première Ligue, des Matheus Cunha, des Martinelli, des Igor Thiago, des Neymar, parce que Neymar, quand il va rentrer demain, s'il rentre 15-20 minutes, même si Neymar il est à cloche-pied, il va générer quelque chose, il va générer une pression positive ou négative, même chez l'adversaire, une crainte.
Oui, il va se faire un claquage au premier ballon.
Ok, très bien, mais moi je dis juste qu'il faut quand même respecter les Brésiliens. Il faut quand même respecter les Brésiliens là-dessus, voilà, tout simplement. Et par contre, si le Maroc le fait demain, mais là encore une fois, on le dira, on sera le haut-parleur ici à RMC, et je dirais, c'est encore une fois très très fort de la part du Maroc. Voilà.
On rappelle donc que demain il y a ce match que tout le monde attend. C'est vrai que c'est l'un des matchs les plus excitants de cette phase de groupe et de la première journée avec ce Brésil-Maroc. Il y avait aujourd'hui Carlo Ancelotti. C'est vrai que quand même c'est une attraction aussi. Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil, donc ils ont choisi un étranger. C'est la première fois que Carlo Ancelotti se retrouve à la tête d'une sélection.
Et son premier match de Coupe du Monde, et c'est l'un des plus grands entraîneurs de tous les temps.
Oui.
C'est vrai que c'est une attraction. T'as raison.
Il y a une attente de dingue quand même aussi, Maxime, parce que on sait que ça s'est terminé au Real Madrid. Bon, le Real Madrid va pas mieux hein, depuis qu'il est parti, bien au contraire. Mais c'est vrai que là, t'as quand même l'un des plus grands entraîneurs du monde, un mec qui a réussi en tant que joueur, qui a réussi en tant qu'entraîneur, et qui va peut-être réussir aussi comme sélectionneur. En tout cas, tout le monde a hâte de voir ça.
Exceptionnel, et Follarin Balogun qui à droite de la surface de réparation contrôle, élimine son vis-à-vis et met une frappe enroulée dans la lucarne d'Orlando Gil. C'est trop facile, c'est la mi-temps rêvée pour les États-Unis grâce à un doublé de Balogun et un but contre son camp. Ils mettent 3-0 les Américains.
Balogun, c'est pas Jonathan David, hein. Je peux te le dire, hein. C'est pas le même niveau, hein. Quand tu vois les cannes qu'il a, quand tu vois tout ce qu'il fait sans le ballon, moi je kiffe cet attaquant. Je le dis à chaque fois depuis qu'il est arrivé en Ligue 1, alors il a du déchet, etc. Mais c'est une bombe atomique. C'est un mec qui pue le football moderne. Là, tu vois comment il passe devant l'adversaire, la finition.
Ces appels en profondeur, justement, font très très mal à la défense paraguayenne. Après, tu peux pas vraiment comparer avec le match de cet après-midi où les Bosniaques jouaient quasiment devant leur but avec très très peu d'espace dans le dos de la défense. Mais c'est vrai que Balogun, dans ce genre de scénario, avec une défense qui joue relativement haute, en tout cas sur cette action-là, avec des passeurs comme Pulisic, comme McKennie, comme Tyler Adams, pour ne citer que, évidemment,
c'est une superbe force pour cette équipe nationale. C'est une bombe atomique.
Mais c'est vrai que ce qu'on a vu du côté du Stade de Reims, ce qu'on est en train de voir du côté de Monaco et ce qu'on voit là ce soir du côté des États-Unis, honnêtement, avec le potentiel qu'il a, je pense qu'il peut faire une très très belle carrière.
Et j'en place une pour Jonathan David, parce que moi, ça fait un moment, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais on va en profiter quand même, Karine. C'est que Jonathan David, moi, ça fait un moment que je dis qu'entre les pénaltys à Lille, c'est un joueur, un vrai bon joueur de Ligue 1, fiable, mais que pour moi, c'est pas le très haut niveau. On l'a encore vu aujourd'hui contre la Bosnie, où Larine, là, son remplaçant, il est rentré, il a fait la différence. Lui, il traîne sa peine sur le terrain. Je le trouve. Je le trouve en surpoids. Je le trouve physiquement pas fit. Je trouve que ce joueur-là est surcoté. Jonathan David est sur.
Très belle saison à Lille
À Lille, en Ligue 1, il a mis ses buts, aucun problème. Mais quand je disais ça, moi, à l'époque, en after, en disant il a un plafond de verre, ce mec-là, et vous verrez où il ira, ça fonctionnera pas. Que ce soit avec le Canada pour l'instant en Coupe du Monde et avec la Juventus, on voit que c'est pas un grand attaquant, ce joueur. Ce joueur, c'est un bon attaquant. Attaquant honnête, mais il y a un plafond.
On dira un petit mot effectivement de ce Canada-Bosnie, un but partout, c'est la pause. Valentin, première mi-temps rêvée pour les Américains.
Magnifique première mi-temps, et c'est mérité hein, parce qu'il y a 3-0 donc à la pause, 72% de possession, 7 tirs à 2, et avec une équipe sur le terrain, c'était les États-Unis. Bobadilla contre son camp à la 7e minute de jeu, et Balogun deux fois, 31e et 49e. Il est magnifique ce but, Balogun, 11e but en sélection, il en avait mis 19 avec Monaco cette saison, et il permet aux États-Unis de mener 3-0 à la pause.
Merci beaucoup Valentin, on te retrouve un petit peu plus tard. En tout cas, les États-Unis qui réussissent leur entrée dans l'heure mondiale avec un succès 3-0 en une mi-temps, et après, a priori, ça devrait continuer en seconde période parce qu'ils sont largement dominateurs face au Paraguay. Sachez que demain, il y a le match que tout le monde attend entre le Brésil et le Maroc. Et c'est la folie à Times Square, à quelques kilomètres de nos studios. Il y a des supporters marocains de partout. Loïc Lefort, qui est sur place, va nous raconter cette ambiance de dingue parce que les Lions de l'Atlas seront largement encouragés demain. On sait qu'évidemment, il y aura beaucoup de Brésiliens, mais les Marocains également ont fait le déplacement. Vous êtes sur RMC, on est en direct jusqu'à 5h du matin. À tout de suite.
RMC, l'after foot. Intégrale Coupe du Monde.